Vous écoutez RTL.
Il est 15h03 sur RTL. On retrouve Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Bonjour.
Bonjour Anne Le Hénaff. On est fait pour libérer nos émotions, vous savez, jusqu'à 16h sur l'antenne d'RTL. Et c'est avec émotion que je vous rendrai l'antenne à 16h pour un prochain point sur l'actualité. Merci. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime. On ne dit jamais aux gens qui nous blessent, qui nous ont fait de la peine. On ne demande jamais assez de soutien à ceux qui pourraient nous aider. Allez, aujourd'hui, on se lance enfin et on exprime ce que l'on ressent. Vous allez voir, ça fait un bien fou. A tout de suite en direct sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-on, aujourd'hui, de nos jours, élever les garçons et les filles de la même façon? C'est la question du genre que nous nous posions tous ensemble hier lors de nos échanges passionnants. C'était avec vous, mais également avec nos invités, Cécile David-Veille et Serge Effèze. Une émission que je vous recommande, non, que je vous ordonne, allez, je rigole, d'écouter en replay sur RTL.fr. Blague à part, c'était vraiment absolument passionnant et enrichissant. J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé. Merci Voltaire. Voici donc l'un des adages de notre émission, faire tout ce qui est à notre portée pour penser mieux, pour vivre mieux. Ça ne coûte pas grand-chose, juste un petit peu d'ouverture, de réflexion et d'engagement personnel. Place au sujet du jour. Si nos émissions nous rendent bien vivants, quand on les ressent, on se sent vivre, les garder pour nous élève un rempart qui entrave le lien aux autres et qui nous éloigne également de nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce si difficile de dire ce que l'on ressent? Qu'est-ce qui nous muselle? Comment réussir à exprimer nos sentiments? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Catherine Mlay-Périssol, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Catherine. Vous êtes thérapeute en logique émotionnelle, vous êtes formatrice à l'Institut de logique émotionnelle, auteure de l'ouvrage aux éditions Le Duc, Émotion quand c'est plus fort que moi. Est-ce que ça n'est justement pas un jeu de résistance entre nous et nos émotions qui nous fait tant souffrir?
C'est sûr que plus il y a résistance à porter attention à ce qui nous anime, plus ça risque de déborder. Et même déborder dans la violence, dans l'excès. Donc du coup, quand on est dans l'excès, on se dit que vraiment c'est pas possible parce qu'on déborde et on remet encore un peu plus de résistance. Donc c'est un cercle infernal. Le meilleur moyen, c'est d'apprendre le plus tôt possible, et donc déjà à nos enfants et nous avec nos enfants, à aborder avec mesure, délicatesse et bienveillance tout cet espace intérieur qui se manifeste et qui est vraiment une source de vie.
À vos côtés, Ilios Kotsou. Bonjour Ilios.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Ilios. Vous êtes auteur, chercheur en psychologie des émotions à l'Université Libre de Bruxelles. Vous travaillez à Grenoble également?
Oui, à la chaire Mindfulness, Bien-être et Paix économique, qui est une très belle initiative pour amener plus de bien-être et de conscience dans les entreprises, donc à la Grenoble École de Management.
Voilà, et nous on garde auprès de nous L'éloge de la lucidité, c'est votre ouvrage chez Robert Laffont, et Le petit cahier d'exercices d'intelligence émotionnelle chez Jouvence. C'est quoi l'intelligence émotionnelle?
Ce serait justement cette capacité à pouvoir identifier, mettre des mots, exprimer, comprendre et rentrer en relation positivement avec nos émotions.
Même quand elles sont négatives.
Et même quand elles sont négatives. Et justement, quand on parle d'intelligence émotionnelle ou de compétences émotionnelles, on va plutôt parler d'émotions désagréables ou difficiles, plutôt que de parler d'émotions négatives, parce que, comme on va peut-être le voir lors de cette émission, toutes les émotions sont utiles. Mmh. Et donc, elles ne sont négatives que par les conséquences qu'elles ont sur nous lorsque nous ne savons pas quoi en faire. Mais elles ne sont pas de nature négative, puisqu'elles nous servent à quelque chose.
Il en est une qui est en ligne avec nous. Et justement, quand on a proposé ce sujet, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont joints. Et d'ailleurs, je vous remercie pour tous les messages que vous nous avez laissés. Je m'en ferai l'écho durant cette émission. Il en est une, elle a du mal. Ils sont là, ces sentiments, elle les ressent. Mais pour les faire sortir, c'est plus difficile. Et ça, c'est toujours douloureux. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Comment allez-vous Mélanie?
Ça va.
C'est pas facile. Hein.
Pas du tout.
C'est une sorte quoi, de combat intérieur que de ressentir des choses et de ne pas savoir les exprimer?
Oui. C'est un combat, mais en même temps, j'aimerais les exprimer, j'aimerais pouvoir dire quand ça va mal, ou quand j'ai mal, quand j'ai de la peine, mais j'y arrive pas.
Et pourtant, vous la ressentez, cette émotion?
Bien sûr.
Qu'est-ce que vous ressentez, que vous n'exprimez pas?
De la peine.
Ouais.
Et puis, la joie, c'est plus facile, forcément, mais la joie pour les autres. L'empathie aussi, parfois, est compliquée à dire dans certaines situations. Mais surtout, c'est la tristesse, la colère, ces choses-là qui restent bloquées.
Vous avez du chagrin?
Ça m'arrive, oui. Souvent.
Ah, et vous aimeriez pouvoir déposer ce chagrin dans les mains d'autres personnes qui pourraient vous aider peut-être à mieux le vivre?
Oui.
Alors qu'est-ce qui bloque? Ça bloque où?
Ça bloque dans... la façon d'exprimer, en fait, le poser les mots sur les sentiments et ce qu'on ressent.
Ça bloque quoi ? Au bord des lèvres ? Dans la gorge ? Dans le cœur ?
Ça dépend avec qui.
Ouais, alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement ça dépend avec qui. À qui vous aimeriez parler de ce que vous ressentez ?
À mon conjoint.
Ouais.
À mes parents.
Ouais.
À mes sœurs. Mmh. Là, ça va être compliqué.
Aux gens qui comptent pour vous, quoi.
Voilà. Mmh.
Et quelle vision ont-ils de vous, ces gens qui comptent pour vous ? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous, à votre avis ?
À mon avis, ils me voient comme quelqu'un de forte.
Mmh. Bah, vous l'êtes, hein.
Mmh. Oui. Oui, mais des fois, c'est trop pesant, en fait, parce qu'on sait que les gens nous voient fortes. Et en fait, bah, à ce moment-là, non, on ne l'est pas ou on aimerait l'être moins ou être épaulé pour l'être plus. Je sais pas si
c'est... Ouais, c'est très clair. Et qu'est-ce que ça ferait si vous montriez que vous avez des faiblesses, justement, selon vous ? Est-ce que ça vous courriez un grand danger, ce qu'ils le sachent ?
Non, mais ils me verraient peut-être différemment.
Ben oui, mais ils vous verraient peut-être en vrai, quoi.
C'est ça.
Ah, c'est peut-être ça. Hein. Vous savez ce qu'on va faire, Mélanie ? On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. En tout cas, vous, vous arrivez à vous exprimer sur l'antenne. Je ne sais pas quel est votre état émotionnel, mais...
au bord des larmes.
Tout va bien se passer. Vous savez qu'on est en toute bienveillance ici, il n'y a pas de problème. Et on va se retrouver dans un instant avec Ilios Kotsou et Catherine Emelet-Périssol. Et on va faire sortir ce chagrin. Non, je rigole, vous inquiétez pas. Voilà, c'est tout ça est très cool, mais c'est vrai qu'on est tous confrontés à ça. À un moment donné, on aimerait tellement qu'on nous comprenne mieux, mais on n'ose pas forcément le faire et puis on n'ose pas forcément dire les choses. Si comme Mélanie vous ressentez la même chose, vous n'hésitez pas à vous composer le 3210 ou vous rendez sur les réseaux sociaux. On se retrouve tout de suite, Mélanie, sur l'antenne RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
En général, tout ce qui est positif sort facilement de ma bouche, nous écrit Catherine. Mais quand mes émotions sont plutôt négatives, je m'isole parce que c'est plus facile. Quand j'ai un souci, je n'en parle pas si je suis sur le point de craquer. Et quand je déballe mon sac, c'est avec 10 paires de gants. Vous êtes sur l'antenne d'RTL. Jusqu'à 16h aujourd'hui, nous parlons de notre difficulté à exprimer nos émotions. Il est 15h11 et on est avec Mélanie, sous l'oreille bienveillante de Catherine Emelet-Périssol et d'Ilios Kotsou. Mélanie, vous êtes toujours là ?
Toujours.
On a soufflé un bon coup, tout va bien, on se retrouve sur cette antenne. Bon, en même temps, Mélanie, c'est pas toujours facile d'exprimer ses émotions, d'autant plus que vous, vous êtes confrontée à certaines épreuves. Hein. On va pas forcément le développer, mais en tout cas, vous souffrez physiquement aussi. Hein. Donc, en plus de ça, vous êtes confrontée à une sorte d'acharnement un petit peu de la maladie sur votre corps. Est-ce que vous pensez tout ça en rajoute à votre fragilité émotionnelle et à votre difficulté à exprimer vos sentiments ?
Oui. Mmh. Alors déjà parce que je ne travaille pas, donc je suis chez moi.
Ouais.
Et on a le temps de penser et ressasser aussi, donc ça aide pas.
Vous ne pouvez pas travailler ?
Non.
D'accord, ok. Vous avez des vous êtes maman, donc vous êtes super bien occupée déjà, hein, parce que vous avez une petite fille de 22 mois, ça occupe.
Ça.
Est-ce que vous avez des occasions de vous changer les idées, de vous divertir un petit peu de tout ça ?
Oui. Bien sûr, on sort, on voit la famille, on voit les amis viennent.
D'accord.
Mais la journée, la semaine, c'est le calme plat. Mmh.
Si on se disait un peu les choses entre nous, là, sur cette antenne, qu'est-ce que vous aimeriez exprimer comme sentiment ? Votre chagrin, vous l'avez dit, la tristesse, c'est-à-dire vous aimeriez à un moment donné pouvoir dire, écoutez, ça va pas, j'ai besoin d'aide ?
Ouais. Je sais pas si j'ai besoin d'aide, mais ouais, le chagrin.
Mmh. Bah, ça se partage, le chagrin. Vous savez qu'il y a des épaules hein, qui sont pas loin, quand même.
Ben oui.
Et pourtant, ça passe pas.
Non.
Vous avez toujours été comme ça, Mélanie, ou c'est quelque chose c'est une sorte de posture dans laquelle vous vous êtes un petit peu enfermée ?
Non, je l'ai toujours été, mais ça a été en empirant en fait avec les événements de la vie.
Ouais. Oui, vous vous êtes un peu radicalisée dans votre position, quoi. Je fais comme si tout allait bien, je me voile la face pour ne pas devoir me justifier parce que je me sens coupable, nous avez-vous écrit. Alors, on est avec Catherine Emelet-Périssol et Ilios Kotsou. Si je pouvais vous les envoyer direct chez vous, je suis sûre que vraiment ça irait beaucoup mieux. Mais regardez, ils sont là sur l'antenne d'RTL et ils vont pouvoir vous parler. Quand vous entendez Mélanie, Catherine Emelet-Périssol, c'est hyper touchant parce qu'on les sent, les émotions, elles sont pas loin là, hein, les sentiments, ils sont... On les entend, vos sentiments.
Il n'y a pas de mots mis sur les sentiments, mais au tremblement de la voix, à l'intonation de la voix, on les entend, elles sont présentes. Et hier, j'ai absolument aucun doute sur le fait que son entourage le perçoit aussi.
Oui.
puisque pour exprimer ses sensations, pour exprimer ses ressentis, il y a des mots, mais l'attitude, la voix, le visage, le choix des mots en dit long. Le « tout va bien, ça va, merci, pas de problème » dit quelque chose de cette rétention et de la difficulté à trouver les mots justes pour exprimer ce qui est éprouvé. Et le fait de parler de nos émotions ou parler de nos sensations, de nos ressentis, on s'imagine souvent qu'il s'agirait uniquement de prévenir l'autre de notre état. On oublie au passage qu'avant de prévenir l'autre, c'est déjà s'accorder à soi-même cette tonalité, cette coloration intérieure. Et donc dire « je ne me sens pas bien », c'est pas simplement « je me sens mal, si tu pouvais m'aider, ça irait mieux me comprendre », c'est déjà entendre une espèce de mélodie intérieure, c'est une musique intérieure, hein, c'est ressenti, et de pouvoir déjà s'y accorder comme étant là, présent, à cet instant-là.
C'est pour ça que vous nous écrivez, Mélanie, « je me voile la face », c'est-à-dire que vous-même, vous voulez pas vous accorder ça.
C'est aussi parce que je ne pourrais pas exprimer le sentiment que j'ai sans, je pense, me mettre à pleurer à flot et à partir dans l'extrême.
Et alors ? C'est à ça que ça sert. Quand vous dites partir dans l'extrême, c'est que vous nous expliquez que vous avez, quand tout à coup ça sort, vous n'êtes pas dans la demi-mesure.
Donc voilà. Je pleure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes.
L'image qui vient lorsque je vous entends, Mélanie, c'est vraiment c'est comme un barrage. C'est-à-dire que vous avez élevé un barrage avec tout le béton que vous avez pu accumuler. Donc l'eau monte, monte, monte. Et évidemment, si le barrage s'ouvre, cède, ben c'est un flot de larmes qui risque de passer. Et, sauf qu'il est aussi tout à fait possible d'ouvrir avec plus de mesure et de laisser couler. Et il est bien possible qu'au début, ce soit un flot. Hein, mais vraiment, la plupart du temps, lorsqu'on commence à toucher du doigt et des lèvres les quelques mots qui témoignent de cet état, ça fait assez rapidement diminuer le débit et donc les larmes. Et effectivement, Flavie a raison, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de larmes au début, et so what.
Et alors, avant de donner la parole à Elios Kotsou, est-ce qu'il vous arrive, Mélanie, de pleurer toute seule ?
Oui.
Ah, d'accord. Non, mais déjà, oui, vous faites un petit peu de tri là, déjà, vous vous allégez un peu. Elios Kotsou, qu'est-ce qu'on peut dire à Mélanie ?
Alors, je ne sais pas ce qu'on peut lui dire, parce que si c'était simple, elle l'aurait déjà trouvé depuis longtemps. Donc,
non, mais elle n'est pas loin, moi, je trouve.
Alors, moi, peut-être ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand j'entends Mélanie, c'est peut-être pas tant qu'elle n'a pas les mots pour parler de ses sentiments, parce que quand elle nous en parle, elle sait ce qu'elle ressent, mais c'est peut-être la peur des conséquences que ça aurait sur sa vie, sur ses relations. Et donc, pour beaucoup d'entre nous, nous avons peur, on a l'impression qu'on va être vulnérable, ou on va avoir l'impression que si les autres savaient réellement ce qu'on ressentait, ils nous rejetteraient, par exemple, ils nous considéreraient différemment. Et donc, c'est cette peur-là, peut-être, et peut-être pas, Mélanie, hein, je ne vous connais pas, donc, mais ça me fait penser à ça, en tout cas, c'est ce qui a pu arriver chez moi et chez des personnes que je connais, donc cette peur de la vulnérabilité, où on a le sentiment qu'on va être rejeté. Et c'est aussi dû à cette question des émotions qu'on appelle négatives. Comme s'il y avait une partie de chez nous qui était négative, ces émotions de tristesse, d'anxiété, de jalousie qu'on ne pourrait pas montrer, et puis des émotions positives qu'on a davantage de facilité à montrer. Et ça vient peut-être de tellement de choses différentes, mais peut-être qu'on n'a pas eu d'encouragement dans la jeunesse à exprimer nos sentiments. Peut-être qu'on a vu des personnes qui ont été entre guillemets punies d'avoir exprimé leurs sentiments, et donc on a ce... Et c'est même pas tout à fait conscient parfois. On a un conditionnement qui nous dit qu'on va être puni en exprimant des sentiments.
Est-ce qu'on peut quand même dire à Mélanie que c'est parfois pire de garder ça en soi, c'est-à-dire avoir ce sentiment tout à coup que ça nous dévore de l'intérieur, d'avoir peur de les exprimer? Mais quel soulagement au moment où on y parvient. Je ne dis pas que c'est facile, mais que c'est plus aisé finalement après.
Complètement. Alors là, peut-être la question pour Mélanie, peut-être pas, c'est comment peut-on exprimer les sentiments de manière juste, qui va faire que la personne en face de nous ne le prendra pas comme une attaque, donc ne pas les exprimer comme des jugements, mais les prendra peut-être comme une expression de sentiment. Cela étant, cette peur-là, elle est tout à fait légitime, évidemment, la peur. Et le seul moyen de la traverser, c'est d'y faire face. Et donc, il n'y a pas de solution miracle pour ça. Parce que plus on évite la peur, plus le risque, c'est que la peur va grandir. Donc, plus on a peur d'exprimer, plus on se coupe des autres, plus on se sent mal et plus l'émotion augmente. C'est un peu ce qu'a dit Catherine...
Il y a un instant. Ce que je vous propose, Mélanie, je sais que vous allez rester à notre écoute et puis effectivement, nos invités vont pouvoir nous expliquer un peu comment ça doit sortir. Mais vraiment, je vais vous envoyer les ouvrages de nos invités après l'émission. Comme ça, vous pourrez les lire. Peut-être que ça vous aidera et ça vous éclairera un petit peu, d'accord ?
Volontiers.
Et tenez-nous au courant, hein, en message privé sur Facebook et tout, mais on se sent tellement mieux quand on n'a plus ce poids comme ça. Et faire face aux émotions, c'est une chose, mais faire corps avec nos émotions aussi, c'est bien. Et on va en parler dans un instant. Mélanie, je vous embrasse. Restez en ligne, on va prendre votre adresse et je vous envoie les documents juste après, ok ?
Merci.
Prenez soin de vous, je vous embrasse.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Sur RTL, jusqu'à 16h, nous sommes en direct. Merci pour tous vos messages. Mais dites donc, on ne serait pas tous un petit peu coincés des émotions? Vous êtes très nombreux à réagir aujourd'hui, à dire « bah oui, moi j'ai du mal à dire je t'aime » ou « j'ai du mal à dire à quelqu'un que j'ai de la peine » ou « à quelqu'un que j'ai besoin de lui ». Et voilà, c'est un ensemble de choses comme ça, une sorte de chaos intérieur qu'on essaye d'apaiser aujourd'hui avec nos invités Catherine Emelet-Périssol et Ilios Kotsou. On vient d'entendre le beau témoignage de Mélanie. Vous lui avez, et l'un et l'autre, répondu. Vous vouliez insister aussi ici, Ilios Kotsou, sur le fait qu'à un moment donné, il faut presque dépasser nos émotions. On en a la trouille, parce que c'est vrai qu'il y a des émotions dont on a moins peur que d'autres. Hein. C'est tellement plus facile de vivre la joie que de vivre la tristesse. Mais en fait, il faut peut-être essayer de comprendre pourquoi elles sont là.
Voilà. C'est que l'émotion, c'est de l'information qui nous parle de l'environnement, évidemment des autres, des dangers, par exemple pour la peur, mais qui nous parle aussi de l'intérieur, et qui nous parle de nos motivations, et donc de nos besoins et de nos valeurs. Et ça me semble vraiment essentiel de pouvoir, lorsque on s'arrête à nos émotions, de pouvoir, tiens, qu'est-ce que je ressens, mettre des mots dessus bien sûr, mais se dire après, mais qu'est-ce qu'il y a d'important pour moi? Quel est le besoin qui est peut-être contrarié? Quel est le besoin que je ressens menacé? Si je me sens ça, je me sens coupable, peut-être que ça veut dire qu'au fond de moi, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que j'ai besoin de sentir une relation équilibrée, ou que j'ai besoin de sentir plus d'autonomie. Et donc, chacune de nos émotions est liée à un besoin et des valeurs. Et donc, si nous rejetons l'émotion, c'est comme si nous perdions la boussole qui va nous dire dans quelle direction aller.
Ouais.
Et donc, lorsqu'on écoute l'émotion, on se connecte aussi à sa boussole intérieure qui nous dit l'autre face, en fait, de l'émotion, ce sont nos besoins et nos valeurs qui nous disent de quoi prendre soin et vers où aller. Un peu comme dans un véhicule. C'est très bien de prendre soin du véhicule, mais c'est important aussi de pouvoir se dire, tiens, si j'ai pas mon GPS qui me dit dans quelle direction me diriger, ce ne sera pas vraiment utile. Et puis, ça, ce sont nos valeurs et nos besoins. C'est un peu comme mettre de l'huile quand il faut, remplir notre réservoir. Si on ne prend pas le temps de prendre soin de nos besoins, nos émotions, c'est un peu comme le petit voyant lumineux qui va se rallumer à nouveau encore et encore et encore. Et donc, à chaque fois que mon émotion apparaît, c'est comme le voyant lumineux qui dit « attention, niveau d'huile en baisse ». Si je ne fais rien, ça ne va pas s'arrêter tout seul. Par contre, si je peux m'arrêter et prendre conscience de ce qui est important à nourrir, à soigner, je peux peut-être faire quelque chose de positif sur le plus long terme.
Catherine Emelet-Périssol, c'est quelque part se maltraiter que de ne pas écouter nos émotions, parce que ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas à l'écoute de nos propres besoins. Donc c'est un peu se nier soi-même aussi.
Ça peut tout à fait devenir une auto-maltraitance, qui fait que par voie de conséquence, le risque, c'est de maltraiter les autres. Et cette auto-maltraitance, elle est beaucoup liée au regard effectivement que nous portons sur ces manifestations intimes et qui commence par les manifestations du corps. C'est-à-dire qu'avant que le besoin soit un besoin ou une valeur mentale de relation à l'autre, c'est déjà d'être en bonne relation avec soi. Et être en bonne relation avec soi, c'est déjà d'être en bonne relation avec les messages du corps. C'est exactement ce que dit Ilio, c'est-à-dire que oui, nous avons de l'information qui circule en nous. Et que c'est en y prêtant attention et en décodant ces messages cachés à l'intérieur des émotions que nous pouvons nous réconcilier avec nous et du coup apprendre à poser des mots.
Écouter les messages de notre corps, parce que c'est vrai que quand les émotions ne peuvent pas forcément s'exprimer, c'est un peu le titre de votre ouvrage, c'est plus fort que nous. Donc à un moment donné, ça essaye de sortir un peu partout.
Hein, c'est ça.
Donc ça sort de partout, ça sort à travers notre corps. Marie-Hélène nous écrit « J'ai dû, depuis toute petite, apprendre à me débrouiller toute seule. L'importance de l'éducation et de l'environnement bienveillant aussi. Je suis indépendante et mes émotions, je les garde pour moi. Ça me vaut beaucoup de somatisation, nous écrit-elle. Arythmie sévère, insomnie, douleurs articulaires. Et quand je craque, c'est sans demi-mesure. Grosse colère, crise de nerfs, dépression. Néanmoins, j'essaie d'apprendre à mes enfants à exprimer leurs émotions, même si je leur demande aussi beaucoup d'autonomie et d'indépendance. Mais les deux ne sont pas incompatibles. » Je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de somatisation. On a parfois aussi, et ça je m'adresse à tous nos auditeurs, hein, parfois on a mal un peu partout, on a mal à la nuque, on en a plein le dos, on a le foie qui se dilate. Mais ça veut dire quelque chose aussi. Hein.
Bien sûr, le corps est à la fois... un corps qui rentre en résonance avec le milieu extérieur, ouais. mais en résonance presque au sens acoustique, hein, et un corps qui va effectivement témoigner de l'émotion par des troubles, alors on appelle ça les troubles psychosomatiques.
Hyper désagréables.
Hyper désagréables. En plus de ça, vous souffrez et puis le médecin vous dit il n'y a rien. Oui. Donc ça peut être extrêmement douloureux. Mais c'est vrai que le médecin ne trouve rien, sauf qu'à l'intérieur du corps, il se passe bien effectivement quelque chose qui témoigne d'un conflit intérieur entre l'expression et l'expression des sentiments, l'expression du désir, l'expression des besoins. Et la capacité dans laquelle nous sommes de les exprimer, de les reconnaître et évidemment de les satisfaire. Donc le corps du coup devient le témoin et l'expression favorite de ce conflit intérieur et on somatise jusqu'à la maladie.
Voilà, et ce que j'expliquais il y a un instant en reprenant Voltaire en disant j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, c'est une façon de prendre soin de son corps aussi et tout à coup il y a une libération. Hein. Quand les émotions sortent, le corps tout à coup s'apaise et on a le sentiment que les planètes s'alignent.
Et nous sommes responsables aussi de la façon dont nous satisfaisons notre besoin de bonheur.
Alors, dire je t'aime, c'est autre chose. Dans un instant, nous allons accueillir Michael. Michael, il n'a jamais dit je t'aime, il a répondu toujours moi aussi. On va voir comment on peut faire le premier pas aussi de ce côté-là. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
Vous êtes sur RTL et aujourd'hui on libère nos émotions, celles qu'on appelle les émotions positives, celles qu'on appelle les émotions négatives, qui en réalité ne sont que des messages de ce dont on a besoin. On parlait de la somatisation, Ilios Kotsou, vous vouliez rajouter quelque chose avant
qu'on
appelle
Michael. Je vais rajouter un petit mot pour dire que ce qu'on appelle psychosomatique, qui fait référence au lien entre l'esprit, les émotions, le corps, bien sûr il y a des liens, on fonctionne comme un ensemble, mais c'est important de dire que lorsque le médecin ne trouve pas une cause biologique, par exemple à la maladie, ce n'est pas pour ça qu'on s'est inventé une maladie comme parfois on peut le croire, et on se sent coupable alors. Et donc, même si le stress par exemple, où les émotions intenses peuvent affecter notre santé, ce n'est pas parce que quelqu'un choisit évidemment cela. Je crois que personne d'entre nous ne choisit d'avoir une difficulté. Cela étant, cette forme de responsabilisation, c'est simplement essayer de trouver le petit fil sur lequel on peut agir nous-mêmes pour améliorer notre état. Tout en se rendant compte qu'il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, mais parfois il y a un fil. Et les émotions, c'est un de ces fils-là et les besoins qui nous permettent de nous faire du bien.
Alors, on tire sur le fil justement aujourd'hui. On essaye comme ça d'enlever les nœuds qu'on peut avoir en nous. Et on accueille Michael. Bonjour Michael.
Bonjour Flavie.
Comment va Baptiste ?
Ben, impeccable.
Baptiste, c'est un petit peu notre mascotte. On le connaît depuis qu'il est tout petit. Il avait 2-3 mois la première fois que vous nous avez appelé, Michael. Il a quel âge maintenant ? 4 ans ? 4 ans et demi ?
4 ans et demi, oui.
Bon, et alors lui, au niveau des émotions, ça roule ?
Ah, lui, il en déborde.
C'est-à-dire ?
Il veut toujours que papa y fasse plein de compliments, qu'il soit à l'écoute de ses émotions.
Ben oui, c'est ça, que vous soyez donc à l'écoute de votre petit garçon Baptiste. Pourquoi est-il tellement dans le besoin, ce petit bonhomme ? C'est parce que vous nous aviez appelé il y a déjà 4 ans maintenant pour nous expliquer et partager avec nous et nos auditeurs aussi le drame que vous veniez de vivre, qui était donc la perte de votre épouse. Et vous vous retrouviez avec Baptiste en train d'affronter la vie, tous les deux. Et depuis, c'est vrai qu'on se tient au courant et on se suit comme ça régulièrement. Alors, vous êtes pharmacien, vous, Michael. Donc, on parlait de la somatisation, vous devez bien connaître l'histoire, évidemment, puisque j'imagine que beaucoup de gens viennent à vous aussi et vous sentez leur douleur. Et alors, c'est marrant, parce que vous n'arrivez pas non plus à exprimer vos émotions et vous n'avez jamais vraiment dit « je t'aime », vous répondiez toujours « moi aussi ». Vous attendiez qu'on fasse le premier pas ?
Pas pour autant, mais c'est vrai que l'expression « je t'aime », qui vient du fond du cœur, non, je ne peux pas la dire. Mon épouse, j'ai toujours « idem ».
Idem. C'est joli aussi, ceci dit, si ça exprime un sentiment. Votre petit garçon Baptiste, vous lui dites que vous l'aimez ?
Je me force à lui dire.
Ouais. Alors comment ça vous force ? C'est parce que quelque part, vous vous dévoilez un petit peu ? C'est quoi ? C'est une fragilité ?
C'est une carapace, comme dit la psychologue qui suit mon gamin. C'est que il faut ouvrir votre carapace, faut dévoiler tous vos sentiments. Ça vous fera que du bien.
Parce que vous en avez des sentiments,
Mais tout à fait, je sens que je me dévoile un peu plus depuis que j'ai participé à l'émission il y a 4 ans.
Génial.
Je m'oblige à parler un peu plus.
Alors, quand vous parlez d'obligation, pourquoi est-ce une obligation selon vous ?
Parce que ça me fait du bien pour moi de vider mon sac, c'est comme ça on peut dire.
Donc, vous vous rendez compte des bienfaits ?
Tout à fait, oui.
Vous avez toujours été élevé dans un milieu où on ne parlait pas forcément, on ne se disait pas forcément « je t'aime » ?
Je n'ai jamais entendu mon père faire de messages de déclaration à ma mère. Bon, c'est vrai que à la maison, c'était pas le... Tout le monde s'aimait, mais ça disait pas, ça se ressentait, mais on l'exprimait pas.
Pourquoi, selon vous ?
Est-ce que c'est la culture campagnarde normande qui fait ça? Je ne sais pas.
La pudeur?
Il y a ça aussi, ouais, je pense.
Alors, aujourd'hui, vous êtes avec votre petit Baptiste, à qui vous finissez par parvenir à dire « je t'aime » parce qu'on sait que vous l'aimez, donc ça y est, ça commence. Vous essayez de libérer ces émotions qui sont en vous. Est-ce que vous vous inquiétez de l'impact de votre pudeur à vous sur votre petit bonhomme?
Ah bah oui, parce que j'ai pas qu'il souffre comme moi je peux souffrir quand je déborde d'émotions.
Quand vous débordez d'émotions, c'est-à-dire que parfois c'est plus fort que vous?
Ah bah là j'ai eu 6 mois difficiles, c'est vrai que il y a des moments où on a envie de vider son sac, d'exploser pour que tout sorte, mais c'est pas dans mon profil.
Alors, c'est pas dans votre profil d'exploser. Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez un entourage qui veille sur vous, qui veille sur ce que vous vivez?
J'ai plein d'amis, j'ai tous mes collègues qui s'inquiètent pour moi, qui me tordent tous les jours.
Ça vous fait du bien?
Ça me fait du bien, mais c'est comme pour eux, il faut que je me force pour exprimer ce que je ressens.
Alors, se forcer, on a le sentiment qu'il faut que ça passe en force. Catherine aime les périssoles. Il y a des drames aussi dans l'existence qui parfois font que ça coince et qu'on se dit, alors je ne sais pas si vous partagerez ça, Michael, c'est que en fait, la lutte est telle que si on commence à céder aux émotions, on ne va pas y parvenir. C'est-à-dire que j'imagine que vous, Michael, dans votre combat quotidien d'être tout seul avec Baptiste depuis 4 ans, il était tout bébé, de vivre tout ça tous les deux, est-ce que vous ne vous dites pas qu'à un moment donné, en craquant quelque part, en avouant vos faiblesses, vous auriez du mal à mener le combat?
Je pense que c'est ça, ouais. On va rester plus fort, garder une image de super positif et super puissant devant tout le monde et devant son gamin.
C'est super lourd, ça, quand même, Catherine.
Tout à fait, c'est extrêmement lourd.
Et courageux aussi.
Et extrêmement courageux. Et là, ce que Mélanie disait tout à l'heure et ce que vous dites aussi, ce que dit notre auditeur, c'est vraiment cette pression que nous mettons intérieurement et que la société nous renvoie avec un souci de performance, de tenir, d'être fort, et combien cette exigence se trouve en confrontation avec la vulnérabilité ou ce qu'on pourrait appeler la fragilité, et du coup ça devient un combat qui est d'autant plus perdu que les événements extérieurs sont évidemment douloureux. Et donc, la première chose, me semble-t-il, qui est essentielle, c'est déjà d'entendre que tant que nous faisons comme ça se battre, le souci de tenir, d'être costaud, d'être fort, et une fragilité qui serait un problème à rejeter, inévitablement, ça ne peut que favoriser cette rétention de ressenti qui, du coup, devient un problème. Voilà. Donc, c'est déjà la première chose.
Michael, vous allez rester à notre écoute, évidemment, puisque Ilios Kotsou va rebondir sur ce que vous nous disiez. Et puis moi, je me ferai l'écho de vos questions parce que vous aimeriez connaître la méthode pour libérer les émotions et vous aimeriez savoir combien de temps ça peut prendre. Alors, ça peut prendre du temps, mais ça peut être très rapide aussi. Donc, vous restez à notre écoute, vous embrassez très fort Baptiste pour nous et vous revenez nous voir rue Bayard dès que vous êtes de passage à Paris. OK?
Ok, pas de problème.
Je vous embrasse. Merci. Salut, Mickaël.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner.
C'est pour moi une véritable souffrance de dire ce que je ressens, nous écrit Anne-Sophie. Je n'arrive même pas à montrer à mes enfants que je les aime. Je fais tout pour eux, je me sacrifie, mais je ne peux ni les embrasser, ni les prendre dans mes bras. Bref, je me suis blindée contre les émotions, sûrement par timidité, et pourtant, je suis d'une sensibilité à fleur de peau. Merci pour votre émission. Merci à vous, Anne-Sophie, pour le message que vous venez de nous laisser. Oh, Lavandière qui nous écrit. Voilà 3 ans que je dis ce que les gens veulent entendre et que je montre aux gens ce qu'ils veulent voir. Je ne peux pas parler de mes blessures, même à ma famille, car je sais que cela rendra tout le monde bien triste. Ilios Kotsou, la peur de faire souffrir, le besoin de protéger l'entourage de nos émotions, ça c'est quelque chose qui entrave?
Oui, je crois que c'est une des grandes peurs. Après celle de souffrir soi-même, c'est la peur de faire souffrir les autres, bien évidemment. Et je crois que ça vient en partie d'une confusion que l'on fait entre l'émotion et les manifestations de l'émotion et les comportements. Ouais. Par exemple, on assimile souvent la colère et la violence. Alors bien évidemment que des comportements violents ou que des mots violents peuvent blesser quelqu'un, c'est une évidence et c'est important de faire attention à ça. Mais ce n'est pas l'émotion elle-même. Donc une émotion n'a jamais blessé quelqu'un d'autre, elle ne peut nous blesser que nous-mêmes. Alors bien sûr que, oui, on prend l'exemple de coups. c'est pas la colère qui a frappé, c'est le bras. Et donc la colère réprimée peut nous faire du mal à nous, mais elle ne peut jamais faire de mal à quelqu'un d'autre si on apprend à l'exprimer de manière claire. Et donc si j'apprends à exprimer mes sentiments en prenant l'entière responsabilité, en disant vraiment comment moi je me ressens à l'intérieur, il n'y a pas de risque vraiment de blesser les personnes autour de nous. Mais peut-être qu'on n'a pas appris comment faire, qu'on n'a pas appris comment pour exprimer ça de manière non violente.
Et c'est un signe de confiance aussi, hein, que de dire aux autres ce que l'on ressent. C'est une façon aussi de prendre soin du lien.
C'est un geste, effectivement, d'ouverture, de prendre soin du lien et de la relation, et de pouvoir augmenter, on va dire, non seulement la confiance, mais l'authenticité, la présence, le fait d'être quelqu'un vraiment face à l'autre, ouais. C'est-à-dire à la fois avec sa force et sa vulnérabilité, et donc d'être plus entier, plus intègre en même temps face à l'autre. Donc ça ne peut être que favorable. Et surtout, surtout, ne jamais voir que l'expression de ces sentiments, de ces ressentis, serait incompatible avec le désir. C'est précisément un tandem. S'il y a difficulté à exprimer ce qu'on ressent, c'est qu'il y a d'abord difficulté à exprimer ce qu'on désire et ce qui est précieux pour soi.
On a Mickaël, hein, qui nous a témoigné il y a un instant sur cette antenne de son histoire, qui est une histoire touchante, où Mickaël, il est dans une sorte de combat aussi quotidien, hein, face à des éléments, et notamment le décès de son épouse, et puis ce petit Baptiste qui le rend heureux, mais ça reste quand même une forte responsabilité. Alors Mickaël, il est direct, il aimerait connaître la méthode pour libérer la parole, et se demande combien de temps ça peut prendre. Alors on va essayer de répondre à Mickaël. Ça peut être super rapide, comme ça peut être un processus aussi d'acceptation, c'est-à-dire il y a plusieurs étapes, non ?
Oui, mais je pense qu'effectivement, c'est sur ce processus d'acceptation et qu'il est important d'intervenir. Et notamment, je pense à des personnes qui, comme ça, ont vécu une histoire extrêmement forte. Et comment le fait d'en parler ou de l'écrire peut être un espace extrêmement précieux pour pouvoir justement donner, non seulement parce qu'on éprouve, mais du coup de donner à voir cette vulnérabilité et cette force, parce qu'il y a eu les deux dans cette traversée qu'il fait. Et donc, que ce soit dans l'écriture juste pour soi, ou que ce soit dans « je vais raconter mon histoire », et je pense que le fait qu'il soit intervenu sur RTL fait partie, quelque part, de cette méthode. Et donc, la méthode, elle est déjà en cours, mais ça va marcher par ce biais-là.
Alors, ce que vous nous expliquez, en fait, Elios Kotsou, vous allez pouvoir rebondir, c'est cette façon de pactiser avec nos émotions. Si on en a peur, on peut y aller pas à pas. Par exemple, c'est vrai que l'écriture, c'est déjà une première étape. C'est quelque chose d'un peu solitaire. On voit, ça fait mal, on arrête, on referme le truc. Après, on réouvre le carrier. On écrit super fort, on griffonne, on y met de la poésie, on y est cru. Mais on y est vrai, quoi.
Tout à fait. Juste pour rebondir sur l'écriture, il y a de nombreuses études scientifiques qui ont été coordonnées par un professeur américain du Texas qui s'appelle James Pennebaker et qui ont montré que simplement écrire 3 fois pendant 15 minutes sur ses sentiments, sans censure, sans se juger, sans rien, avait de nombreux effets positifs, dont le fait qu'on a moins de visites chez le médecin dans les mois qui vont suivre. Donc c'est vraiment des études très sérieuses qui montrent qu'une seule chose aussi simple que qu'écrire ses sentiments peut avoir des effets positifs. Alors, je pensais aussi à Mickaël en pensant qu'une chose qui me semble importante, c'est une forme d'auto-empathie. Je crois que Mickaël est quelqu'un d'extrêmement amical avec son fils, avec les autres. Et l'idée, c'est toutes ces attitudes amicales que j'ai envers les autres, est-ce que je me traite vraiment comme ça ? Est-ce que je me traite dans ma vie émotionnelle avec la même gentillesse, la même attention que je traite les autres ? Et je crois que cette auto-empathie, c'est la première étape, pouvoir identifier, nommer et prendre vraiment soin de cette vie intérieure. Et je pense que la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a plus de force d'une part et de vulnérabilité d'autre part, c'est que ça devient la force de la vulnérabilité. C'est que notre grande force, ça devient cette capacité d'être en contact de cette vulnérabilité qui nous connecte à nous-mêmes et aux autres. Et dans ce cas-là, lorsqu'on n'a plus rien à protéger, on n'a aussi plus rien à craindre. Alors ça peut sembler très loin, et en même temps c'est un chemin, ce n'est pas une destination, mais qu'on peut cultiver peu à peu. Je cite quelques idées, mais il y a ce qu'on appelle la communication non violente, qui permet vraiment cet apprivoisement de cette vie intérieure. Il y a ce qu'on appelle méditation de pleine conscience, qui nous propose aussi d'aller identifier dans le corps nos sentiments et de pouvoir vivre avec eux, plutôt que de vivre contre notre vie émotionnelle.
Et puis on a aussi GM qui nous parle de l'hypnose, qui l'a beaucoup aidé, Catherine Emelet-Périssol. Est-ce que ça fait partie aussi de ces...
Ça fait partie des voies. De toute façon, toute expérience qui va lui permettre de porter attention à cette intériorité, à sa richesse, à ses mouvements, à sa variété aussi, hein, selon les événements extérieurs, tout ça va contribuer à pouvoir pactiser, j'aime bien le mot. Oui. Et puis j'aime bien aussi pouvoir parler de poésie, c'est-à-dire que dans cette difficulté que nous avons à parler de nos ressentis, de ce que l'on ressent, inévitablement, comment décrire toute cette vie intérieure ? C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que la poésie, le chant, tous les arts vont pouvoir nous aider à, plutôt que de mettre des mots rationnels, etc., c'est comment la poésie, comment le chant, comment la musique, comment la terre peut nous aider à exprimer nos ressentis autrement que par des explications qui sont en général le vecteur qu'on imagine comme étant le meilleur. Non, il y en a beaucoup d'autres qui sont extrêmement précieux. Et oui, exprimer ses ressentis, en général, c'est faire œuvre de poésie.
Dans un instant, c'est Clément qui va intervenir sur cette antenne. Clément, il a une façon bien à lui, finalement, de vaincre sa timidité et une façon à lui de s'exprimer. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Chanter, faire de l'art, de la poterie, de la peinture, je sais pas, vous exprimer. Mais ça peut être aussi gueuler un bon coup sur une plage. Ça peut être... Non mais si, Oilios Kotsou. Mais si, moi je trouve que quand on a un sentiment, enfin c'est quelque chose que faut le faire sortir de soi d'une façon ou d'une autre, non? Catherine aime les périssoirs. Moi parfois je vais crier sur la plage.
Oui, hein, crier au milieu d'une... au milieu de la plage.
Pas au milieu aussi. Des champs. Hein, je
voilà, au milieu des champs. Oui, parce que si crier est une façon de toucher sa propre énergie,
oui,
c'est formidable. Si crier, on a l'idée que ça viendrait expulser je ne sais quoi, j'en sais rien, mais vraiment, c'est une façon de toucher sa propre énergie et ça, c'est une ressource.
C'est pas bien quand je vais crier au bout de la plage, si, Ilios Kotsou. En tout cas, moi, ça me fait un bien fou. Je reviens après, j'ai la banane. Mon entourage ne le subit plus.
Ça me fait penser juste à une petite chose. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Catherine. Et c'est que l'expression des émotions, si c'est une expression de notre énergie ou quelque chose de sain pour nous, oui. Mais je pensais, par exemple, aux personnes qui explosent en colère. C'est pas la même chose, d'accord,
mais c'est important. Aller crier seul dans un coin, c'est pas s'en prendre aux autres. Vous voyez ce que
et même si quelqu'un se met en colère tout seul, le fait d'exploser, beaucoup d'études ont montré que ça n'avait pas d'effet plus positif que le fait de réprimer. Donc, exploser ou réprimer sont deux extrêmes qui n'amènent pas à quelque chose. Et donc, l'idée est vraiment de pouvoir identifier et faire avec ses émotions, de pouvoir
identifier ce qui nous fait du bien.
Oui, ou identifier l'émotion elle-même, identifier le besoin. Mais entretenir la colère en explosant régulièrement, ça ne me paraît pas être quelque chose de positif. Et autre chose qui est qu'on a souvent une idée qu'on est comme une cocotte minute. Et le fait d'exploser, eh bien, ça permettrait de relâcher la pression et de se sentir mieux. Les études jusqu'à aujourd'hui nous montrent que, par exemple, dans l'écriture émotionnelle, écrire sur ses émotions, ce n'est pas tant le fait d'avoir expulsé quelque chose qui nous fait du bien, c'est qu'en écrivant, il y a une forme de travail intérieur qui se fait. Et en écrivant, nous nous comprenons nous-mêmes. Un peu comme quand quelqu'un nous écoute sans jugement. C'est pour ça qu'on aime tellement nos amis qui nous écoutent sans nous juger du tout, sans donner de solution.
C'est que,
par l'écoute de nos amis sans jugement, nous nous comprenons nous-mêmes. Il y a un travail qui se fait.
Bon. Eh ben écoutez, moi j'ai rigolé sur la plage, tant pis, ça me fait du bien, mais c'est parce que j'ai identifié ce qui pouvait me faire du bien, effectivement. Clément est avec nous, bonjour Clément.
Bonjour Flavie.
Comment allez-vous Clément ?
Eh ben ça va très bien, merci.
Oh quel accent, ça fait du bien ça, vous savez qu'il fait froid à Paris, il suffit de vous entendre et tout à coup, pouf, on se prend un petit coup de chaud, dites donc. Alors, dites donc, vous exprimez vos émotions, votre empathie, vos sentiments, alors c'est peut-être difficile de le dire avec des mots, mais vous le faites avec des gestes.
C'est ça, c'est vrai que parler des fois, ben, c'est compliqué. Ouais. Alors, c'est vrai que pour faire plaisir aux amis et puis pour essayer de leur dire un peu ce que je pense, faire passer un message en tous les cas, ça peut passer par des petits objets.
Ouais, c'est-à-dire
Ben, ça peut être, par exemple, quand je vais en vacances quelque part, au-delà du simple souvenir, ça peut être un porte-clés où c'est qui a marqué je t'aime, ça peut être, suivant les personnes.
Oui, en fait, vous essayez de trouver des supports à vos émotions.
Exactement.
Pour en fait exprimer quoi ? Qu'est-ce que vous avez le plus de mal à exprimer dans la vie ? C'est des émotions positives sur l'amour, le manque, la joie ?
Voilà, les émotions positives sont parfois plus difficiles à sortir que les négatives. C'est drôle et comme je disais, c'est des fois plus difficile de parler à des amis qu'un illustre inconnu et de lui expliquer, de dire que ça ne va pas ou au contraire ça va bien.
Alors c'est intéressant ce que vous nous dites et c'est un peu ce que vous nous racontiez il y a un instant, Ilios Kotsou, hein, c'est-à-dire l'idée de parler à quelqu'un sans jugement. C'est vrai qu'il est parfois plus facile de s'exprimer face à quelqu'un qui n'est pas engagé affectivement parce qu'on sait qu'il repartira avec notre histoire, nos chagrins, nos trucs et puis bon, voilà, ça n'aura pas plus de conséquences que ça. C'est vrai ce qu'il explique.
Tout à fait, la peur n'est peut-être pas là. Ouais. Et en même temps, je pensais aux émotions positives. Peut-être que dans le cas de Clément, c'est une pudeur, une très belle pudeur, ouais, qui lui permet de pouvoir faire passer quelque chose et de prendre soin des gens qu'il aime. Et je me dis, c'est une caricature, mais si je devais choisir entre la personne qui exprime tout positivement, mais qui ne prend pas soin, oui, et celle qui exprime différemment, mais qui prend vraiment soin, est-ce que ce n'est pas les comportements, pour finir, qui vont entretenir aussi les relations, ce qui compte, qui est fondamental? Donc je trouve cette pudeur liée à des comportements très généreux et positifs. Moi, j'aimerais bien que vous habitiez près de moi et de votre ami,
hein,
Clément.
Oui, enfin, et en même temps, vous pouvez nous envoyer des porte-clés aussi, hein, Clément. Nous, on prend.
Oui. Avec plaisir.
Catherine Emelet-Périssol, de pouvoir trouver chacun, finalement, ses astuces, une attention. C'est vrai que ça fait tellement plaisir. Une petite attention, un petit geste, un petit rien du tout, parfois, mais qui, tout à coup, prend une véritable ampleur parce qu'on y sent l'émotion derrière.
C'est tout à fait juste. On dit souvent qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Dire je t'aime sans qu'il y ait une posture, une attitude, une ouverture qui témoigne de cet amour, on peut se poser la question de la nature de l'amour. Donc oui, ces gestes font partie intégrante du sentiment, parce que c'est tout le corps qui s'engage. C'est pour le porte-clés, il a fallu le chercher, il a fallu le trouver.
Oui, c'est l'engagement que ça a demandé. Oui.
Et donc ça dit quelque chose de l'entièreté de la personne et pas simplement du langage. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans l'expression de ce qu'on ressent, et parfois c'est difficile, ne nous leurrons pas, même si on ne dit pas, on ne met pas de mots sur ce qu'on ressent, c'est tellement visible.
Oui.
C'est-à-dire que, comme nous sommes juste en vibration, en résonance les uns avec les autres, quelqu'un qui est malheureux, même si la personne ne le dit pas, ça se voit. Quelqu'un qui a peur, ça se voit. Quelqu'un qui est en colère, ça se voit. Et donc, ne nous racontons pas d'histoire. Nous sommes porteurs et notre émotion est visible par les autres et nous voyons aussi celle des autres.
Oui, on ne peut pas pipoter sans 7 ans.
Non, voilà. On ne peut pas, ce n'est pas possible.
Ça. Clément, je vous remercie, vraiment.
Bien, merci à vous, j'étais ravie d'être sur l'antenne. Vous voyez, pour une fois, j'exprime mes émotions facilement.
C'est génial. Eh bien voilà, c'est super. Et puis, ce n'était pas la peine de nous envoyer un porte-clés pour nous dire que vous étiez ravie, vous avez réussi à le faire. Donc, on vous embrasse. Merci Clément.
Je vous embrasse également. Au revoir.
On accueille Angelina, si vous le voulez bien. Bonjour Angelina.
Bonjour Flavie.
Pourquoi est-ce que je vous appelle Angelina? Peut-être qu'on dit Angelina tout simplement.
Non, il n'y a pas de préférence.
Vous prenez ce qui vient.
Oui, voilà.
Très
exactement.
Bien. Alors vous, en revanche, vous nous écoutez depuis le début de l'émission. On est tous un petit peu coincés par nos émotions. Vous, pas de problème. Vous avez expliqué qu'au début, vous avez pris votre courage à deux mains.
Oui. Je reviens à une émission que vous aviez faite il n'y a pas longtemps, qui c'était sur la franchise.
Ouais.
Je pense que ça a découlé à partir de là où, je m'embête pas avec le stress. Je laisse tout sortir comme ça. Après, je rumine pas, voilà. Et puis, comme je dis, les sentiments, c'est d'autant plus plaisant et agréable de se le dire que quand il arrive une grosse tuile, comme récemment avec ma tante, où ma cousine et ma tante se sont dit « je t'aime » parce qu'il y avait eu un gros souci. Et je trouve d'autant plus beau et joli de l'écrire encore plus. Parce que ça fait un plus de, et un souvenir, parce qu'après on se le garde et on peut le revoir après à volonté.
Eh bien écoutez, Angelina, on voulait terminer avec cette devise qui est belle. Vous avez raison, c'est Daniel qui nous écrit aussi sur Facebook. Malheureusement, il y a encore des tabous que nous levons uniquement à la mort d'un proche. « Je t'aime » est beaucoup plus facile à dire au-dessus d'une pierre tombale que devant une personne vivante. Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps, là, comme ça, de se dire les choses tant que c'est encore possible. Et vous avez raison de souligner, Angelina, que parfois, il faut certains drames ou certains conflits pour être capable, à un moment donné, d'exprimer ces choses qui sont si importantes. Angelina, je vous embrasse. Merci pour cette parole lumineuse de fin d'émission.
Oui.
Et à bientôt sur
à
RTL.
À bientôt, Flavie.
Au revoir.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
On dit jamais. Catherine Emelet-Périssol, il y a urgence à dire je t'aime, il y a urgence à le réaliser, me disiez-vous?
Oui, il y a urgence déjà à prendre le temps. On parlait de méditation tout à l'heure, c'est-à-dire les temps de pause, mes temps de méditation, c'est une façon de prendre la mesure de l'ampleur justement de ces sentiments, de ces émotions, de cette présence animée à l'intérieur de soi, très corporelle, hein, c'est très physique. Et puis ça se déploie dans le mental, c'est d'abord très physique. Donc prenons le temps déjà de réaliser ça.
Très bien, merci beaucoup Catherine Emelet-Périssol. Je rappelle, émotion quand c'est plus fort que moi aux éditions Le Duc. Ilios Kotsou, une phrase pour la fin ? Une devise pour la fin ? Une idée pour la fin ?
Prendre soin de nous-mêmes, rentrer en empathie avec nous-mêmes pour mieux prendre soin des autres et de la vie, ça me semble essentiel.
Voilà, aimons-nous pour mieux aimer les autres. Éloge de la lucidité chez Robert Laffont et le petit cahier d'exercice d'intelligence émotionnelle, c'est chez Jouvence. Merci Ilios Kotsou.
Merci.
Bon retour à Bruxelles, à bientôt.
À bientôt.
Demain, demain, on va s'armer de courage et puis surtout d'humour en ressortant les photos de notre adolescence. Oui, je parle bien de celles-là, ces fameuses photos un peu jaunies, ambiance bouton et appareil dentaire, sous pull en nylon ou pantalon pâte def. Peut-on échapper au physique ingrat de l'adolescence ? Concours de Polaroid demain à 15h sur les réseaux sociaux évidemment, dont Effet Pourcentage et sur RTL. Cherchez vos photos, envoyez-les nous, vous aurez un cadeau à gagner en direct dans cette émission. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Moi, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous aimer et d'aimer les autres. Et je vous dis à demain.
Vous écoutez RTL.